amis qui nous ont rejoints au cours de ce culte, je souhaite à tous la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ce matin, j'aimerais parler du Dieu créateur du ciel et de la terre. Si vous êtes comme moi, vous pouvez voir autour de vous que la nature est exubérante. Et il me semble plus que les autres années. La verdure explose, les arbres poussent d'une façon extraordinaire. Même quand ça a été taillé, ça repousse très vite. Et comme il y a une explosion de vie quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres à la Pentecôte, il y a aussi une explosion de vie et plein d'encouragement dans la création. Parce que celui qui est derrière ça, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et tous les jours, finalement, on peut être encouragé dans la foi. Si on regarde autour de soi, si on lève les yeux un peu, si on dit, mais voilà, on réfléchit à tout cela, on dit, eh bien voilà, celui qui a créé ça, c'est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Et je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 1 et 2, et nous verrons ce matin l'amour de Dieu et la puissance de Dieu au travers de ces textes. Genèse chapitre 1. Et deux. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon son espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voici un beau récit, deux beaux chapitres de Genèse. Alors, au commencement, nous est-il dit dans Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre. Que peut nous apprendre le récit de la création ? Que peut nous apprendre le récit de la création sur Dieu ? Que peut nous apprendre le récit de la création sur nous-mêmes ? Le récit de la création nous montre à la fois la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Et nous allons nous intéresser dans un premier temps à la puissance de Dieu. Tout au long de notre vie, nous avons de multiples besoins. Et le péché qui habite en nous ne nous facilite pas la tâche. Bien au contraire, il nous cause plus de problèmes que de solutions. Et nous avons besoin donc de nous tourner vers quelqu'un de fiable. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu pour trouver de l'aide. Comment savons-nous que Dieu peut nous secourir dans tous nos besoins? Comment savons-nous que Dieu peut nous délivrer de la détresse, nous fortifier dans la faiblesse? Comment pouvons-nous être davantage motivés à chercher le secours de Dieu quand nous passons par ces moments difficiles? La réponse est simple. Nous devons nous souvenir de la création. Nous devons nous souvenir du Dieu créateur. Nous devons nous souvenir que Dieu a créé merveilleusement toutes choses. Le Dieu qui a été capable de créer le monde dans lequel nous vivons est capable de nous secourir dans toutes nos détresses. Le Dieu qui a été capable de créer souverainement ce monde complexe, majestueux, imposant et harmonieux est tout à fait capable de nous sauver dans nos difficultés du quotidien. Il peut nous secourir dans tous nos besoins. Il peut nous soutenir, nous fortifier dans toutes nos faiblesses. Nous devons nous rappeler du Dieu créateur. Les chrétiens connaissent bien sûr l'Éternel comme le Dieu sauveur, mais connaissent-ils aussi bien le Dieu créateur? Et souvent, nous sommes polarisés sur le salut et nous oublions que Dieu est le créateur et que ça implique beaucoup de choses. Et nous manquons d'être émerveillés par le Dieu créateur. Nous ne discernons pas assez la portée de la connaissance du Dieu créateur. Mais la Bible insiste sur le fait que le Dieu sauveur est aussi le Dieu créateur. Et si nous voulons apprécier davantage sa capacité à nous sauver, à nous secourir, à nous soutenir, à nous fortifier, nous devons nous souvenir qu'il est, que Dieu est le créateur tout-puissant. Nous trouvons dans la parole de Dieu des illustrations à ce principe. Et je vous invite à prendre avec moi Ésaïe 40 pour voir ce principe que c'est parce que le Dieu est créateur qu'il peut aussi nous sauver, nous secourir dans toutes nos détresses. Ésaïe chapitre 40, alors là, ce passage s'adresse au peuple d'Israël. À un moment de son histoire, il se trouve en exil à Babylone, complètement découragé. On peut le comprendre, ça n'a pas été facile. La destruction de Jérusalem a été violente, brutale. Et en trois vagues, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Comment le prophète Ésaïe, qui a écrit donc ce livre, va encourager les exilés? Comment va-t-il les réconforter? Eh bien, Ésaïe va parler du Dieu créateur. Dieu est capable de sauver son peuple. Dieu est capable de soutenir dans toutes les situations, justement parce qu'il est le Dieu créateur. Et Ésaïe 40, versets 26 à 28, nous lisons « Levez vos yeux en haut et regardez. » Qui a créé ces choses? Il pose la question. Qui a créé ces choses? On cherche le secours, on court à droite et à gauche, et les choses sont là, tout près de nous, il suffit de lever les yeux. Qui a créé ces choses? Ça ne nous tombe pas sur la tête, ça tient depuis des années et des années. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Voilà, Ésaïe le rappelle, voilà. Ce que vous regardez là, qui est majestueux, qui est puissant, ce qui tient depuis longtemps, eh bien c'est Dieu qui l'a créé. Il est fort, il est puissant. Et Job aussi, dans son découragement, il avait été une première fois éprouvé, il a perdu ses serviteurs, ses biens, ses enfants. Il a été une deuxième fois éprouvé. Il a perdu sa santé. Sa femme a dit, mais qu'est-ce que tu fais, maudit Dieu? Et puis, arrête ça. Et ses compagnons, ses trois compagnons qu'il avait, qui étaient venus le voir, sont restés silencieux. Et quand ils ont ouvert la bouche, c'était pour le casser, comme nous disons aujourd'hui. Disant, mais c'est parce que tu as péché que tu te trouves dans ce problème. Eh bien, qui a encouragé Job? C'est l'Éternel lui-même. Et comment l'a-t-il fait? Eh bien, en lui parlant de la création, lui donnant des leçons de biologie, lui parlant des animaux, qui nourrit les animaux, qui a fait ça, comment ces choses sont merveilleuses. Et c'est Dieu qui est derrière tout ça. Voilà. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et Matthieu aussi, chapitre 6, on peut lire Matthieu chapitre 6, pour voir que même le Seigneur Jésus utilise le langage de la création pour encourager ses disciples à tenir bon. Parce que commencer, c'est une chose. Persévérer en est une autre. Quoique Dieu peut aujourd'hui pourvoir nos besoins, mais est-ce qu'il le fera tout le temps? Est-ce qu'il le fera dans l'avenir? Eh bien, le Seigneur encourage ses disciples en parlant justement de la création. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Il parle de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes bien, on est tout le temps, trop souvent en train de penser, mais de quoi ça va être? Est-ce que j'aurai assez? Comment ça va se passer plus tard? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, les disciples avaient tout le temps l'occasion d'être rassurés, parce qu'ils avaient les lits des champs, ils avaient les oiseaux, et tous les jours ils pouvaient les entendre chanter, les entendre... vivre, les voir vivre, voir aussi les plantes pousser. Et finalement, Dieu a fait ces choses et en prend soin, donc il prendra soin aussi de ses enfants. Le langage de la création, toujours. La même pensée se retrouve dans le psaume 121. Tout le monde connaît le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Voilà. Ce psaume parle d'un pèlerin qui se rend à Jérusalem pour les trois fêtes annuelles et les trois fêtes de l'Ancien Testament. Il est conscient que le voyage comportera des difficultés et des dangers de toute nature. Il va traverser des contrées arides, il risque de rencontrer des pillards. Alors il regarde vers Sion, il cherche au loin les montagnes sur lesquelles s'élève Jérusalem, la ville sainte. J'élève mes yeux vers les montagnes. Et il s'interroge, d'où me viendra le secours? Donc il y a du chemin à faire jusqu'à Jérusalem. Et la réponse est encore une fois claire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu peut me secourir parce qu'il a fait les cieux et la terre, par sa parole. Et l'Éternel dit, que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre est capable de secourir le pèlerin. Il est capable de te garder, de garder Israël, de te garder dans toutes tes voies. Le Dieu créateur est le Dieu rédempteur, fidèle à son alliance. Verset 8 du psaume 121, on dit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Certains d'entre vous diront peut-être, c'était la façon de Dieu agir dans le passé, dans l'Ancien Testament. Cette façon de faire concernait l'Ancien Testament. Cette façon de voir Dieu était seulement bonne pour l'Ancien Testament. L'idée du Dieu créateur, le langage, la création sont présentes dans l'Ancien Testament, mais ça disparaît dans le Nouveau Testament. Eh bien, quand on parcourt le Nouveau Testament, on découvre qu'il parle encore du Dieu créateur. Le Nouveau Testament insiste de plusieurs façons sur la nécessité de connaître le pouvoir du Dieu créateur si nous voulons apprécier la puissance de Dieu en tant que sauveur. Par exemple, c'est le langage de la création que Paul utilise lorsqu'il veut décrire la puissance de Dieu qui nous a délivrés des ténèbres spirituelles. Et je vous lis 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, et ça a été dit dans une prière, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, il l'a dit lors de la création, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Si Dieu est capable de produire de la lumière dans les ténèbres, alors il est capable aussi de produire la lumière divine dans nos cœurs enténébrés par le péché. Le même Dieu qui a créé la lumière physique crée aussi la lumière spirituelle. Il a la puissance pour le faire parce qu'il est le Dieu créateur. Paul va utiliser une nouvelle fois le langage de la création. Quand plus loin, il va dire aux Corinthiens, dans la même lettre, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pourquoi une ancienne création? Parce qu'il est né de nouveau par la puissance de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé à partir de rien. Voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Nouveau Testament ne s'arrête pas là, dans son insistance sur le Dieu créateur. Quand il désire souligner la puissance de Christ comme sauveur, il utilise l'image de la création. Comment, nous chrétiens, pouvons-nous être assurés que Christ peut nous garder et qu'il peut nous sauver jusqu'au bout? Eh bien, nous pouvons être assurés que Christ peut nous sauver, nous garder, en retenant dans notre esprit que c'est lui qui a créé et c'est lui qui soutient toutes choses. On peut prendre Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset... Colossiens chapitre 1. N'ayez pas peur de faire chanter les paroles de votre Bible, enfin les pages de votre Bible, c'est une belle musique ça, hein? Colossiens chapitre 1, merci, même si maintenant, avec le numérique, il n'y a plus de chansons des pages. Colossiens chapitre 1. On peut lire. Donc le verset qui m'intéresse, c'est les versets 16 et 17, mais on peut lire, on peut commencer au verset 12, Colossiens chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » J'entends des pages, donc j'attends. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez ce langage de la création qui revient dans ce discours. Voilà. Eh bien, Paul encourage les Colossiens. Voilà. À rendre grâce à Dieu, parce que le Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ainsi, connaître Dieu comme le créateur, c'est connaître sa puissance. Et cela, c'est une source de réconfort, de paix, d'encouragement, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël en exil, comme ce fut le cas pour beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament, et comme ce fut le cas aussi pour ceux du Nouveau Testament. Isaïe, nous l'avons lu au chapitre 40, versets 27-31, a écrit « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?» Et c'est souvent ce que nous disons quand nous sommes dans l'épreuve. Comme Pierre a dit, quand tout va bien, oula, on décolle pour bénir le Seigneur. Quand ça va mal, on doute, et quand ça dure. Et nous nous posons les mêmes questions que le peuple d'Israël en exil à Babylone, malgré le fait que Dieu avait fait des promesses de retour. Et donc, Ésaïe continue, Ésaïe chapitre 40, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ?» C'est quelque chose qu'il faut apprendre, retenir, bien fixé dans nos esprits. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Parce qu'ils sont confiés en l'Éternel. Ils sont confiés dans celui qui a créé les cieux et la terre. Ils se sont confiés dans celui qui tient, qui maintient la création en ordre. Et donc, alors que les adolescents, des gens pleins de vie, les jeunes, ah là là, ils sont dynamiques, se fatiguent et se lassent à certains moments, eh bien ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. La connaissance de Dieu, le Créateur, répond à nos doutes, à nos soupirs, lorsque nous pensons qu'il se cache et que nous nous sentons abandonnés. Dieu a créé toutes choses, il soutient toutes choses, il veille sur toutes choses. Il ne se fatigue pas, contrairement à nous. Il est le Créateur, et à ce titre, il nous soutiendra et il nous fortifiera. Le récit de la création nous montre donc la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le récit de la création nous montre aussi l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et c'est ce deuxième volet que nous voulons voir maintenant. Alors, je reviens dans Genèse chapitre 1 et 2. Alors, quand nous lisons Genèse chapitre 1 et 2, nous pensons qu'il s'agit de deux récits différents de la création. En réalité, ces deux chapitres se complètent. Genèse chapitre 1 raconte l'histoire de la création et se termine avec l'histoire de la création de l'homme. On constate d'ailleurs dans ce récit de chapitre 1 un schéma qui se répète. Dieu dit, Dieu parle, hein, voilà. Dieu parle, une nouvelle chose est créée, puis Dieu se réjouit de la qualité de la chose créée, Dieu se réjouit de la qualité de son œuvre. Ce schéma se répète jusqu'au cinquième jour de Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Genèse chapitre 1, verset 25. Et puis, on arrive à Genèse chapitre 1, verset 26, il y a un nouveau schéma. Il y a un nouveau schéma qui se présente. Dieu tient une sorte de conseil divin et décide de créer l'homme. Et au verset 26, nous lisons, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Vous remarquez que l'homme n'a pas été créé selon son espèce, comme il a été dit dans les versets précédents, versets 11, versets 21, 24, 25. Non, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, au verset 26. Nous sommes alors là devant un tout nouveau type de création. Une créature qui entretient des rapports différents avec Dieu, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et puis, une créature qui entretient des relations différentes avec le reste de la création, puisque l'homme est chargé de dominer la création, de la maîtriser. Ah, nous mesurons maintenant que l'homme est l'aboutissement du dessein de Dieu dans la création quand nous considérons Genèse chapitre 1. Maintenant, qu'en est-il de Genèse chapitre 2 ? Le schéma est quelque peu différent. Et l'homme paraît là plutôt être le centre de la création que son aboutissement. Genèse 2 parle de la création de l'homme et décrit ensuite son environnement. Donc, Genèse chapitre 1 et 2 se complètent. Un théologien a écrit, Genèse chapitre 1 montre l'homme comme la finalité de la création, comme l'aboutissement de la création, tandis que Genèse 2 présente l'homme comme le commencement de l'histoire. Alors, que nous apprennent Genèse chapitre 1 et 2 ? Que nous apprennent Genèse chapitre 1 et 2 au sujet de Dieu ? Genèse chapitre 1 et 2 nous montrent l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu est plein de bonté envers l'homme dans tous les aspects de son existence. Dieu crée l'homme et le place dans le jardin et répond à tous ses besoins. Dieu cultive avec l'homme une relation particulière, une relation d'amitié étroite. Dieu est extrêmement généreux dans les dispositions qu'il a prises en faveur de l'homme. Et nous en verrons trois ce matin. Tout d'abord, Dieu confie à l'homme une dignité unique. Comme je l'ai fait remarquer, à part l'homme, Dieu a créé tout selon son espèce, dans un but bien spécial. Par contre, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Lorsqu'on se penche sur les mots hébreux, on lit que ces mots à son image, selon sa ressemblance, correspondent à font référence tous les deux à quelque chose qui est semblable mais qui n'est pas identique à ce qu'il représente. Quand par exemple Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », cela signifie simplement pour les premiers lecteurs juifs « faisons l'homme pour qu'il soit comme nous, pour qu'il nous représente ». Dieu ne fait pas de l'homme un deuxième Dieu qui est exactement comme Dieu créateur. Il fait un homme simplement qui le représente. L'homme créé à la ressemblance de Dieu était comme Dieu, non pas identiquement, non pas complètement, et il représentait Dieu de diverses manières. On lit par exemple Genèse chapitre 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ça ne veut pas dire que Seth est exactement semblable à Adam en tout point de vue, c'était le fils d'Adam. Donc il avait certainement des liens communs, comme le fils ressemble à son père, mais il n'était pas son père entièrement. Voilà. C'est de la même façon que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous ne sommes pas des dieux au-dessus de tout, mais nous avons des qualités communes avec Dieu. Et par exemple, l'homme, il peut raisonner, parce que Dieu raisonne aussi. L'homme a une intelligence, comme Dieu en a une. L'homme a une volonté, il a des émotions, comme Dieu a cela. Donc il est fait à l'image de Dieu, il représente Dieu. L'homme, en fait, a été créé pour représenter Dieu. Ainsi, Dieu domine le monde par l'intermédiaire de son représentant. Et c'est l'homme qui est là. C'est pourquoi l'homme exerce la domination que nous avons vue dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 28. L'homme devait remplir la terre et veiller à son bon fonctionnement. Et l'homme est destiné à être à la terre ce que Dieu est à l'univers. La dignité unique que Dieu a accordé à l'homme s'exprime de diverses façons dans Genèse chapitre 1 et 2. On voit que l'homme reçoit l'autorité de nommer les animaux. C'est à l'homme que Dieu confie cette tâche. On voit aussi que l'homme est capable d'exprimer de façon rationnelle l'adoration de toute la création. Nous sommes réunis ce matin, nous chantons des cantiques, nous élevons vers Dieu des prières d'une façon rationnelle, avec un langage construit de mots, de verbes, de compléments et de tout cela. Les oiseaux, les animaux piaillent, ils poussent des cris. C'est pourquoi Spurgeon, d'ailleurs, nous encourageait à la prière en disant, regardez les oiseaux, le petit du corbeau, il crie vers Dieu, les animaux rugissent pour demander à Dieu leur proie. Nous avons la prière, un langage structuré où chacun peut exprimer ses besoins à Dieu. Et Dieu entend ce langage, il le comprend. Voilà, nous ne disons pas du charabia à Dieu quand nous prions. Nous avons des besoins que nous avons identifiés et nous les présentons à Dieu dans la prière. Alors il dit, mais si le petit du corbeau crie, parce que ceux qui ont fait des études ont vu que le petit du corbeau, quand il commence à prendre de l'âge, les parents le chassent du nid. Et il doit crier vers Dieu pour avoir sa nourriture. Eh bien nous avons le langage, Dieu nous l'a donné pour nous exprimer et faire connaître à Dieu nos besoins dans la prière. Donc nous pouvons exprimer l'adoration avec nos mots. C'est pourquoi il faut profiter de ce temps pour exprimer nos actions de grâce à Dieu. Et c'est vrai que de plus en plus, nous perdons cette habitude. Nous disons, oula, c'est compliqué, quel mot je vais mettre là? Mais puisez dans la parole de Dieu, puisez dans vos souvenirs, puisez dans votre expérience de tous les jours. Si Dieu vous a béni cette semaine, vous pouvez dire merci pour la bénédiction. Si vous a protégé, merci pour cela. Si vous a nourri, merci. Mais nous oublions de compter les bienfaits de Dieu. Comptons-les chaque jour. Ça tombe pas du ciel. Ça tombe du ciel, je veux dire. Ça ne vient pas comme ça. C'est Dieu qui nous fait du bien. Donc, rendons grâce au Seigneur. Des fois, nous sommes propres à applaudir les hommes, à leur rendre gloire parce qu'ils sont grands, parce qu'ils savent faire de grandes choses et tout cela. Mais Dieu, on l'oublie. Hein? Voilà. Donc, l'homme reçoit l'autorité pour nommer les animaux. C'est lui qui les nomme, qui leur donne le nom. L'homme reçoit aussi cette capacité d'exprimer de façon rationnelle l'adoration. Et l'homme aussi est celui à qui Dieu donne des instructions. Il ne donne pas les instructions aux animaux, il les donne aux hommes. Et Dieu donne à l'homme aussi le soin de prendre soin du jardin d'Éden. Remarquez que l'entretien du jardin d'Éden nous rappelle que le travail n'est pas une conséquence de la chute, mais qu'il existait bien avant la chute. L'homme travaillait à prendre soin du jardin. L'homme est actif parce que son Dieu créateur est aussi actif. L'amour de Dieu pour l'homme, sa création spéciale, se voit donc dans la dignité unique qui lui est conférée, servir Dieu et le glorifier. Donc c'est d'abord le premier aspect de l'amour de Dieu pour l'homme, quand Dieu a conféré à sa création, à l'homme, une dignité unique. Il y a un deuxième domaine dans lequel l'amour de Dieu se manifeste pour l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en relation avec ses semblables et avec son créateur. Et là, c'est une implication d'avoir été créé à l'image de Dieu. Nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu pour notre propre plaisir. Il y a un but dans ça, il y a un objectif. Et justement, c'est que nous soyons en relation avec notre Dieu et en relation aussi avec nos semblables. Le Dieu trinitaire, c'est trois personnes en un seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. De toute éternité, les trois membres de la Trinité ou de la Triunité jouissent d'une communion parfaite les uns avec les autres. Si Dieu était un être solitaire, il n'aurait pas pu être une personne capable d'aimer. Avant la création, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de... Comment Dieu pouvait être amour de toute éternité s'il n'y avait pas quelqu'un à aimer? Eh bien, les trois personnes de la Trinité s'entendaient bien, s'aimaient, se soutenaient. Dieu est amour, et cet amour s'exprime parfaitement de toute éternité au sein de la Trinité. L'amour lie aussi Dieu à sa création. Dieu aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime la création qu'il a faite, tout le monde, toute sa créature, mais il aime particulièrement ses enfants. On le voit beaucoup dans l'évangile de Jean. Et Dieu nous rend, enfants de Dieu, capables d'aimer nos ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, nous dit, nous sommes encouragés à aimer nos ennemis. Matthieu chapitre 5, versets 42 à 48. Dieu nous encourage aussi à aimer nos frères et nos sœurs dans la foi. Dans Jean chapitre 13, dans Jean chapitre 15. Car aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu rend aussi ses enfants d'aimer Dieu lui-même. Voilà. Nous avons été créés pour avoir de bonnes relations avec Dieu et de bonnes relations les uns avec les autres. L'homme est donc fait à l'image de Dieu comme un être relationnel, capable de nouer des relations d'amour avec ses semblables et avec Dieu. Nous sommes créés pour faire l'expérience de la communion. Vous savez qu'il y a, depuis notre enfance, on crée des liens d'amitié avec nos camarades de classe, avec nos voisins, avec nos petits camarades. C'est un réel bonheur d'avoir des amis et de bons amis. Il y a aussi des liens d'amitié et de communion tout à fait particuliers et profonds au sein du mariage. Voilà, le mariage est une institution divine. Dans son immense bonté, Dieu fait cadeau du mariage, non seulement à ceux qu'il aime, mais encore à l'humanité entière. Dieu fait le don du mariage aux chrétiens comme aux inconvertis. Et le mariage constitue l'environnement favorable pour l'accueil et l'éducation des enfants. Le mariage fixe le cadre dans lequel les instincts sexuels trouvent leur satisfaction conformément à l'intention divine. Au travers du mariage, Dieu continue de manifester son amour envers ses créatures alors même que celles-ci se rebellent contre lui. Et on voit que même les inconvertis jouissent d'un mariage heureux, parce que Dieu a institué le mariage, pour que les enfants trouvent dans la famille le secours, le réconfort, tout ce qu'il faut pour grandir et apprendre à connaître Dieu. Donc on a vu, premièrement, que l'amour de Dieu se manifeste dans la façon de Dieu confère à l'homme une dignité unique. On vient de voir dans ce deuxième point que Dieu a créé l'homme comme un être relationnel. C'est encore une manifestation de l'amour de Dieu. Il y a un troisième privilège accordé à l'homme qui se trouve dans Genèse 2 et qui est encore une manifestation de l'amour de Dieu. C'est le fait que Dieu a créé l'homme pour qu'il adore. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, que je relis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Après avoir achevé la grande œuvre de la création, Dieu, nous est-il dit, se reposa. Et le modèle suivi par le Créateur, 6 jours de travail, suivi d'un septième jour de repos, devrait nous servir aussi de modèle dans notre vie. Et justement, encore une fois, à cet égard, l'homme est fait à l'image de Dieu. Voilà. Les animaux ne respectent pas de sabbat, ils n'ont pas ce temps de travail et ce temps de repos. Mais nous avons été faits à l'image de Dieu, il y a des choses communes. Et ça devrait nous inciter à suivre ce modèle, 6 jours de travail et un jour où nous prenons le temps de nous ressourcer dans le Seigneur. Ce jour de repos n'est pas un jour de fainéantise. C'est un jour où le travailleur peut jouir de son Créateur. Et il peut jouir aussi de la création. C'est un jour où celui qui a travaillé peut prendre plus de temps pour se consacrer à la communion avec Dieu et à l'adoration de sa personne, comme nous sommes là ce matin. Ce sabbat ou jour de repos constitue un autre bienfait que Dieu accorde à l'homme fait à son image. Il peut ainsi se ressourcer, renouveler ses forces, reprendre courage en contemplant tout ce que Dieu a accompli. Ce jour de repos incite l'homme à adorer son Créateur. Et au travers des cantiques que nous avons chantés ce matin, au travers de la parole qui a été rappelée par notre frère, au travers des échanges que nous aurons, Dieu veut nous ressourcer, nous encourager, fortifier notre foi. J'aimerais conclure maintenant. En créant l'homme, Dieu n'a rien laissé d'inachevé. Tous nos besoins ont été satisfaits. Dieu a fait de l'homme le couronnement de sa création et il l'a richement béni. Il est vrai que nous ne vivons pas dans le jardin d'Éden, un jardin merveilleux. Nous trouvons le travail pénible, pas comme Adam et Ève. Nos relations les uns avec les autres sont souvent conflictuelles, ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Et même au sein du mariage, on n'a pas cette intimité, cet amour qu'on devrait avoir. Les hommes ne louent plus, on a de plus en plus de mal à louer Dieu spontanément. Tout cela parce que le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Pourtant, Dieu veut que nous fassions de lui ses délices. Dieu veut que nous le reconnaissions comme notre sauveur et notre Dieu créateur. Alors Jésus, le Fils unique de Dieu, il s'est fait homme. Il ne s'est pas fait animal, il aurait pu. Il s'est fait homme, il a quitté le ciel, son ciel de gloire, il est venu sur terre, il a pris une forme d'homme, il a revêtu notre faiblesse. Il s'est rendu au désert pour être tenté par le diable. Il s'est aussi rendu à Golgotha et sur la croix, il a pris nos péchés. Il a subi à notre place le châtiment que méritaient nos iniquités pour qu'un jour nous ayons accès au paradis. Parce que Jésus a accompli la grande œuvre de rédemption, nous pouvons apprécier Dieu non seulement comme sauveur, mais aussi comme créature. Avons-nous placé notre confiance en lui? Avez-vous placé votre confiance en lui? Renouvelez-vous jour après jour cette confiance en Dieu? Avez-vous répondu à son appel? Si Dieu vous interpelle dans la vie et vous montre que vous êtes pécheur, est-ce que vous répondez à son appel de saisir par la foi le salut gratuit que vous avez en Christ? Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, nous lisons « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà, c'est la question que Dieu pose. Crois-tu cela? Voilà. Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous fasse du bien, qu'il renouvelle votre foi. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, qu'il vous appelle à venir à lui. Eh bien, j'aimerais terminer par ce cantique.